France Culture, Le Bon Plaisir, de Marcel Détienne. Est-ce que vous définiriez un mythe, Marcel Détienne ?
Oh, une grosse question, oui.
C'est quoi un mythe ?
Après l'illusion mythique.
C'est comme un conte.
Oh, ça peut être beaucoup de choses. Oui, maintenant, j'en suis venu à penser qu'effectivement, on peut accepter une forme générale. Enfin, j'ai eu beaucoup de résistance. D'abord, il faut un peu revenir en arrière, parce qu'effectivement, vers donc les années 60... 68, 69, c'est ça. Je commence à faire des séminaires, donc très, très Lévi-Stroussien. C'est-à-dire, je m'aperçois effectivement que les mythes deviennent extrêmement intéressants si on analyse les plantes, les animaux, leur symbolisme et toutes les relations qui sont donc données dans la distance et dans les rapports avec un contexte ethnographique qu'en Grèce on peut connaître puisqu'on a un nombre considérable de traités sur les animaux, les plantes. Donc on a vraiment une très riche information. Alors donc je commence effectivement à lire entre Homère et Porphyre et les traités tardifs, donc tout ce qui peut se lire pour essayer de comprendre donc des récits et des mythes, puisque ce sont des mythes. À ce moment-là, je suis les cours de Lévi-Strauss et donc d'une oreille je l'écoute et de l'autre main, donc j'écris ce jardin d'Adonis parce que, donc, effectivement, les aromates se prêtaient très bien parce qu'il y avait des récits très riches autour des aromates, des aromates de ce moyen Proche-Orient, mais que les Grecs avaient donc utilisé pour penser la place d'un dieu. Un dieu un peu incertain, un petit dieu grec qui s'appelle Adonis, donc, qui avait du jardin. Jardin qui joue un rôle dans un rituel athénien, les Adonis, dieu athénien, pas seulement athénien, mais aussi Alexandrie. Enfin, donc, je fabrique un peu des choses en utilisant donc, toutes les ressources que Lévi-Strauss nous avait données, mais seulement dans un domaine où lui ne pénétrait pas, puisque donc la Grèce, il n'y entrait pas. C'est évidemment l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, c'est très loin. Et donc l'ancien monde, bien sûr, avait des mythes, mais bon, il ne s'y hasardait pas, parce que comment les maîtriser? Et puis ensuite, est-ce que ça relevait de la même pensée sauvage? Est-ce que ça relevait de la même forme de pensée qui s'efforçait de définir donc à travers l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud? Ou alors là, ça avait l'air de pousser spontanément. Tandis que du côté des Grecs, c'est toujours un petit peu savant, cultivé, raffiné. Enfin, bon, ils vivent dans des cités qui sont déjà anciennes. Bon, donc c'est très travaillé, c'est trop travaillé. Alors donc, la rencontre s'est faite un peu comme ça, c'est-à-dire que je lui apportais, au fond, la preuve, enfin, j'apportais des éléments pour croire qu'effectivement, ça marchait. Et moi, j'avais le sentiment que ça marchait très bien. Et donc, après les jardins d'Adonis, je me suis lancé dans la mythologie du miel, parce que donc Lévi-Strauss venait de publier Du miel au centre, et je savais qu'il y avait toute un ensemble de récits autour des Déméter, des femmes abeilles et du miel par rapport au vin ou à l'hydromel, donc qui était comme ça un peu caché dans les traditions mythologiques, les bibliothèques d'Apollodore, les travaux d'Hygin, etc. Donc toute cette mythologie qui, pour finir, n'était pas vraiment analysée. Et j'ai commencé une mythologie du miel, donc que j'ai conduite en relation étroite avec lui. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je lui soumettais les résultats. Et donc, il m'écrivait, il répondait. Et jusqu'au moment où j'ai eu le sentiment que ça marchait trop bien. Oui. Ça marchait trop bien, que par conséquent, trop bien. C'est-à-dire que je trouvais tout ce que je voulais. C'était trop inquiétant, donc par conséquent, j'ai pris une année sabbatique dans le Valais. et pour écrire cette mythologie du miel. Et je me suis arrêté, je crois, à la page 150, oui. Et puis je l'ai mise dans un tiroir. Voilà. Je suis revenu pour commencer un petit peu à m'interroger sur cette représentation, cette conception du mythe et de la mythologie que Lévi-Strauss nous donnait, nous avait apporté. En particulier, donc, l'idée qu'un mythe, chacun ses accès, on le reconnaît immédiatement, et qu'on peut en faire la grammaire sans problème, enfin, si, bien sûr, en travaillant, mais enfin, qu'elle est possible. Et donc, je me suis interrogé sur la forme du mythe, qu'est-ce que c'est qu'un mythe, donc. Et j'ai commencé à faire un peu la généalogie de la catégorie du mythe, puisqu'elle est grecque, donc, puisque les Grecs sont toujours à l'horizon. C'est eux, effectivement, qui quittent la pensée mythique, disait Lévi-Strauss, pour entrer dans le champ de la philosophie, de la pensée conceptuelle, c'est ça. Enfin, c'est la pensée mythique qui se désiste en faveur de la pensée philosophique, comme il dit. Donc, donc j'ai commencé à voir qu'au fond, les Grecs appelaient mythos des choses très différentes. Que le mythe, c'était le discours subversif, que le mythe, c'était le récit des autres. Ce n'était pas nos récits fondamentaux, c'était les récits des autres, les histoires qu'ils racontent, des histoires, des fariboles. Et que, donc, bien sûr, il y avait tout un travail sur mythologie, mythologie chez Platon, que Platon, effectivement, était quelqu'un qui voulait construire, effectivement, de grands récits, et qu'il pouvait parfois les appeler mythes, pas seulement, il les appelait aussi logoi, donc il fallait qu'il y ait une raison interne. Donc, entre mythos et logos, il n'y avait pas ce passage catastrophique ou miraculeux qui fait qu'on entre dans la raison en quittant les rêveries de la mythologie. Et pas davantage qu'on passe d'une logique mythique à une logique rationnelle. Enfin, ça n'était pas, ça ne se passait pas comme ça. Enfin, c'était beaucoup plus complexe. Et donc, j'ai fait ce livre sur comment la mythologie s'invente, pour finir, et combien les Grecs sont importants pour la fabriquer. Et c'est eux les personnages à deux têtes, justement. Il y a un Grec qui raconte une histoire que nous appelons un mythe, et puis il y a l'autre tête du Grec qui tient le discours de la raison. Et c'est ce qui fait la séduction, effectivement, de la Grèce, particulièrement pour Lévi-Strauss. C'était très fasciné par pas seulement Lévi-Strauss, je veux dire que toute la pensée sociologique. Les Grecs jouent toujours ce rôle. C'est pour ça qu'il y a des Grecs très souvent, c'est parce qu'ils sont un peu à la limite d'histoires qui semblent appartenir à des populations très lointaines, sauvages, et des autres, quoi, des vrais autres. Et puis, en même temps, ils sont si proches de nous. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est eux qui ont l'air d'être en train de fabriquer les concepts, les opérations intellectuelles qui deviendront les nôtres, qui nous sont familières.
Alors, et qui sont devenus les nôtres, d'ailleurs.
Qui sont devenus les autres, oui, pour une part. Oui.
En grande partie, tout de même.
Avec pas mal de travail, quand même, par-dessus.
Oui, bien sûr. Ce qui donne à penser et qui est aussi un des charmes du polythéisme, Marcel Détienne, c'est que les dieux ne sont jamais seuls dans leur coin. Ils sont toujours en assemblage, en réponse les uns avec les autres ou en conflit. Il y a des assemblages de dieux en quelque sorte. Et par exemple, Dionysos est souvent associé justement à son frère Apollon.
Oui, il est associé particulièrement dans ce sanctuaire un peu majeur pour les Grecs qui semble occuper le centre du monde, qui est donc Delphes, qui est ce centre oraculaire. Et nous avons toutes sortes de récits sur le partage du temps entre les deux frères et sur leur rencontre, sur la manière effectivement dont Apollon intervient dans les récits de la mise à mort de Dionysos. Le tombeau de Dionysos se trouverait à Delphes. Et donc, ils apparaissent un peu comme les deux pôles de la religion grecque dans cette perspective. Et puis quand on regarde de près, oui, on s'aperçoit qu'à Delphes, il y a un dieu qui est très présent, très actif, qui est le tenant de l'oracle. Effectivement, c'est lui qui ouvre les chemins de la parole, qui maîtrise cette parole oraculaire. Et Dionysos est un dieu silencieux, un dieu qui somnole, un dieu qui hiberne, un dieu que l'on réveille, et un dieu qui a des rapports discrets, très discrets avec la parole oraculaire. Mais il est là. Ce qui est intéressant, c'est de sortir un petit peu de Delphes et d'aller voir des lieux où Apollon et Dionysos se rencontrent, interfèrent, se partagent des espaces. Et il y en a un certain nombre qui sont très, très intrigants. Et en particulier, il y a en Asie mineure, dans une ville qui s'appelle Magnésie, qui est fondée par les Magnètes, et au bord du Méandre, Magnésie du Méandre, et bien dans cette ville, il y a un échange très surprenant et très complet de fonctions, d'attributs, de pouvoirs entre Apollon et Dionysos. Et là apparaît effectivement un Apollon qui se conduit comme une ménade de Dionysos. Du moins, ses fidèles qui sont des jardiniers très sages, qui entourent un Apollon qui vit dans une caverne. Pourquoi ? Bah, c'est un Apollon de la brousse. Comme Dionysos habite souvent un antre, un coin rocheux, perdu. Et ces jardiniers soigneux et sages, lorsqu'ils touchent un certain jour la statue d'Apollon, sont saisis de folie. Et ils arrachent les arbres qu'ils ont plantés, donc ils sont doués d'une force surhumaine, comme les ménades, et ils s'élancent dans cette forêt, et ils vont en direction de la ville, de la cité des Magnètes, la ville de Magnésie du Méandre. Et on nous raconte que dans cette ville, un jour de tempête, un platane frappé par la foudre, se brise en deux et laisse apercevoir une statuette. Et on consulte l'oracle qui apprend que c'est la statuette de Dionysos et que Dionysos est depuis toujours dans cette ville et qu'on ne sait pas qu'il est là et qu'il faut lui rendre des honneurs. Et par conséquent, on s'empresse d'aller chercher à Thèbes, la ville où Dionysos est né, prêtresses et des thiases, c'est-à-dire ces confréries de fidèles qui vont donc célébrer, trois thiases, qui vont célébrer le dieu oublié et enfin retrouvé. Et les jardiniers fous d'Apollon suivent un parcours qui les mène vers ce Dionysos du cœur de la ville, du platane dans lequel il est enfermé, qui est un Dionysos sage, pacifique, un Dionysos assis raisonnablement et qui attend l'offrande de ces hommes ménades qui viennent déposer ces arbres arrachés à ses pieds. Alors là, Apollon est du côté de la folie, mais la folie à la manière de Dionysos, et Dionysos joue le rôle du dieu qui, depuis toujours, est le maître, le dieu le plus important, le dieu Polyade, en quelque sorte, de cette cité, qui est un autre dieu Polyade. Mais en l'occurrence, dans ces récits, il y a donc un échange complet entre ces deux dieux, et alors, en prenant en quelque sorte leurs traits les plus distinctifs. Et donc, le polythéisme peut jouer avec tout cela, parce qu'il y a d'autres lieux où d'autres endroits, d'autres cités où les échanges se font partiellement, c'est tel ou tel aspect, et sans pour autant que cela empêche donc la circulation entre Dionysos et Artémis d'une part, et Apollon et Hermès par exemple d'un autre. Donc le polythéisme joue avec de multiples figures qu'il déplace au gré de sa fantaisie, de son invention, puisque au fond, chaque cité peut se constituer son propre parcours. Le parcours est ouvert, il n'y a personne pour dire non, tel dieu ne peut pas occuper telle position.
Tout est possible.
Tout est possible.
Ce qui est intéressant dans votre approche de la Grèce, Marcel Etienne, c'est ce sentiment d'avoir affaire sans cesse à du contradictoire.
Pur impur, pour nous, oui, ça paraît contradictoire. Mais on passe très facilement de l'un à l'autre, sans problème, donc, du pur à l'impur.
Vous employez une formule que je vais retrouver, que j'ai sous les yeux. Voilà, vous dites que chaque dieu dans le polythéisme est d'abord au pluriel.
Oui, voilà. Mais là, le pluriel, ça peut, on peut le lire en termes de contradiction. Mais enfin, c'est-à-dire, effectivement, il y a une pluralité d'aspects. C'est-à-dire qu'il est, c'est un peu pour réagir contre l'idée au fond, qu'il y a une essence des dieux. Parce qu'on a voulu chercher oui, l'essence des dieux. Mm-hmm. C'est bon, une identité, ça peut porter ce nom-là. Donc, il y a quelque chose, il y a un noyau. Chaque dieu doit s'observer dans ses assemblages. Et par conséquent, il faut être attentif à ses facettes, enfin. Ils ont tous des facettes.
Parce que vous voulez bien, on va prendre un exemple concret. Votre dernier livre, Apollon au couteau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait travailler justement ces facettes d'Apollon ?
Oui, c'est vrai qu'Apollon, j'ai l'idée de prendre Apollon, puisqu'effectivement c'est un dieu.
Ça fait longtemps que vous avez pris Apollon d'ailleurs.
Oui, mais je veux dire qu'il y a l'idée quand même, parce que c'est un dieu qui paraît très ennuyeux. C'est un dieu d'académie.
Absolument, oui.
Oui, avec la lyre, et puis avec les muses, enfin toutes ces choses ennuyeuses. Et donc, j'ai toujours beaucoup, enfin nous avons toujours beaucoup, comme ça, Vernon et un certain nombre d'autres, travaillé autour de cette matrice qu'est le sacrifice et les opérations sacrificielles. Donc pour nous, c'était très important d'essayer de comprendre comment cette cuisine du sacrifice, ça permettait d'organiser un grand nombre de choses.
Et pour les auditeurs, cuisine au sens strict. Hein.
Tout à fait, oui, tout à fait, bien sûr.
Il s'agit de manger un animal.
Manger la viande d'un animal domestique, donc qui est égorgé de manière rituelle. Et c'est un acte très important pour les Grecs, puisque toutes les relations sociales passent à travers des sacrifices. La cité reconnaît le sacrifice, et si on ne sacrifie pas, on en sort. Donc ce qui m'avait permis d'analyser les pythagoriciens, les orphiques, c'est-à-dire des sectaires, des gens qui, pas comme
qui
les autres.
Qui refusent le sacrifice.
Qui refusent le sacrifice, qui refusent d'être avec les autres. Voilà, c'est ça. Dans cet espace qu'il considère comme souillé par le sang d'un meurtre. Et voilà ce qu'il y a à l'intérieur du sacrifice, c'est qu'on tue, on fait couler le sang, et que l'animal est extrêmement proche de l'homme, certains animaux, en particulier le bœuf laboureur en particulier, donc qui ont le sentiment que c'est un meurtre que l'on a commis, c'est pas un sacrifice. Donc alors il y a toute une série d'opérations pour effacer la dimension meurtrière dans le sacrifice. Alors c'est par là effectivement que j'ai rencontré Apollon, parce que on avait trouvé donc au XIXe siècle, mais donc puis ensuite plus récemment donc une série d'inscriptions, archéologues, épigraphistes travaillant ensemble.
Oui, il y a des fouilles qui ont été menées, qui ont beaucoup éclairé vos travaux, il faut dire.
Oui, bien sûr, mais qui étaient là, qui attendaient donc quand même un petit peu.
Questionnés, au fond.
C'est plein de fouilles partout. Mais il faut, les archéologues n'aiment pas tellement. Ils trouvent des choses extraordinaires, par exemple sur Apollon Dionysos, mais ils ne réfléchissent pas sur Apollon Dionysos, ça ne les intéresse pas. Ils diront, voilà, il y a la danse sanctuaire, à la fois les deux. Bon, ben. Ciao, c'est terminé.
Débrouillez-vous avec
bon,
ça.
Alors donc, en l'occurrence, ils sont très précieux puisqu'ils nous lisent tous les matins. Sans eux, on n'apprendrait pas des tas de choses sur ces groupements, ces associations, bien sûr.
Oui.
Et alors donc, à Chypre, donc on a trouvé un sanctuaire très, très, très étonnant, enfin, avec des statues merveilleuses. Ils sont toutes parties aux États-Unis d'ailleurs en 1890. Et puis, donc, on a continué à gratter. C'est les Anglais, après, donc, qui ont trouvé alors des pierres, des inscriptions, etc. Bon, donc, on trouve un Apollon débouché. Débouché. Apollon débouché, ça, je trouve ça très intéressant, puisque, évidemment, j'avais dirigé une thèse dans, comme ça, un jeune homme qui est maintenant donc, au Canada, et sur donc, toute la technique de la boucherie. Alors, un dieu débouché qui est en même temps un dieu de la Mantique. Alors donc, un Apollon de la Mantique qui vit au milieu des garçons bouchers. Donc, je ne pouvais que commencer à suivre la piste. Alors donc, j'ai commencé à regarder Apollon de très près et à m'apercevoir qu'il était beaucoup plus intéressant qu'il ne semblait.
Ce n'est pas du tout un personnage lisse, solaire.
Non, pas du tout. Non,
c'est un dieu
extrêmement
très
violent.
Étrange. Oui, brutal.
C'est ça, c'est cela. Oui, et donc, et alors, j'ai relu donc l'hymne Homérique Apollon. On dit relire parce que censé tout avoir tout lu en fait. Je l'ai vraiment lu attentivement, et donc j'ai découvert un dieu donc en même temps de la voirie, un dieu des chemins, un dieu qui ouvre le chemin, qui découpe le chemin, comme disent les Grecs. Et on les découpe avec un couteau, enfin du moins quand on est Apollon, parce qu'il faut quand même les construire, mais c'est un dieu constructeur aussi. Alors j'ai vu un dieu architecte, un dieu donc des bouchers, et par-dessus donc un dieu oraculaire. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On regarde évidemment ce qu'on a écrit, on commence à lire à peu près tout ce qu'on sait sur ce Apollon, et on trouve des choses très, très étonnantes, bien connues, mais qui sont comme ça mises à côté des autres. Et peut-être à l'arrière-plan, quand on a une certaine vision de ce dieu. En particulier, donc, ce qui m'a le plus intéressé et retenu, c'est son rapport avec les meurtriers.
Ah oui. Et il attend d'ailleurs ses victimes, lui, pour leur trancher la gorge, hein, par ailleurs. C'est un Apollon très inquiétant.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un éloge du couteau sacrificiel, du couteau qui égorge, à Delphes même. Alors ça, c'est des choses que les gens qui lisent les traités où l'on rassemble tous les proverbes grecs connaissent bien. C'est l'éloge du couteau, le fait que les Delphiens, les prêtres Delphiens sont voraces, qui se battent avec leur couteau pour lorsque une victime est sacrifiée, et qu'il y a parfois, bien entendu, du sang qui coule, du sang humain. Donc, et puis derrière, tout le monde sait qu'il y a quelque chose de beaucoup plus énigmatique, un peu mystérieux, c'est donc la mise à mort de Néoptolème. Néoptolème, c'est le Néoptolémos, c'est le fils d'Achille, c'est lui qui va prendre Troie.
Et oui.
Voilà, autant voulu, autant fixé. Et alors, il a des relations extrêmement conflictuelles avec Apollon. Apollon, c'est le dieu des Troyens. C'est aussi le dieu des Grecs, mais c'est le dieu des Troyens. C'est lui qui défend Troie, les portes, les entrailles. Et Troie ne peut être prise qu'à un certain moment, d'après un oracle, enfin donc un oracle de fondation même, c'est-à-dire la quatrième génération, c'est celle de Néoptolème. Donc Néoptolème doit à la fois effectivement donc prendre, s'emparer de la ville d'Apollon, Troie, et il doit en même temps donc aller porter à l'Apollon des Grecs les prémices de cette victoire, donc les dépouilles des vaincus qui sont en même temps les gens d'Apollon. Donc c'est très conflictuel, c'est le moins qu'on puisse dire. D'autant que Néoptolème est un de ces guerriers d'une extrême violence qui donc se singularise par la mise à mort, par exemple, de Priam, du vieux Priam, qui le supplie d'épargner sa vie et qui le tue donc sur l'autel domestique. Enfin, c'est plein de sacrilèges, de meurtres affreux. Et donc, ce Néoptolème n'a pas les mains pures, mais il est quand même un vainqueur. Il a triomphé comme il le fallait, puis selon l'oracle d'Apollon, puisque Apollon est toujours celui qui gère toute cette machine. Et Néoptolème va monter donc vers Delphes pour rendre hommage à Apollon. Et c'est là qu'il sera donc mis à mort, tué, ou par les prêtres d'Apollon, ou par un personnage qui est appelé l'homme du couteau, ou bien par Apollon lui-même.
Voilà.
Donc, et c'est la fondation de cette fête qui s'appelle les Théoxénies, la fête de l'hospitalité. Voilà, l'hospitalité apollinienne. Et repose par conséquent sur ce sacrifice d'un homme qui a porté les dépouilles de Troie, qui était violent, aussi violent qu'Apollon, mais pas plus, et dont la tombe va se trouver donc inscrite dans l'espace même de ce dieu. Et on va rendre à cette tombe les honneurs comme on les rend à un héros qui sera le héros qui conduit ceux que la fête de l'hospitalité fait monter vers Delphes. Alors, ça fait un nœud, un très beau nœud apollinien. Voilà. Et donc, oui, Apollon est un dieu très intéressant de ce point de vue, effectivement, parce qu'il est au cœur, disons, des contradictions. Oui, vous avez raison, c'est vrai, les contradictions du sacrifice. Sacrifice pour manger, sacrifice qu'il faut se nourrir, sacrifice d'animaux que l'on ne martyrise pas, mais dont il faut consommer la viande, mais en même temps, meurtre, on fait couler le sang. Et ce sang, c'est le sang de la vie. Vous savez que les êtres vivants, en grec, c'est zoa, zoologie, zoa. Mais ça englobe également les hommes, donc les hommes et les animaux. Ils sont tous sur la même chaîne. Donc par conséquent, quand on tue l'un, ben, on peut tuer l'autre.
Hors d'ici à l'instant! C'est moi qui vous l'ordonne! Sortez de ces demeures et que ce sanctuaire de la prophétie soit de vous débarrassé. De peur que la vipère ailée ne vous atteigne, très blanc jaillit de la corde d'or, et que je ne te fasse vomir dans les convulsions du sang d'homme, rendre parmi l'écume les caillots de ce lait dont tu t'es gorgé. Ma maison nullement n'est celle qu'il te convient de hanter. Va, où sont les yeux qu'on arrache, la tête qu'on fait sauter, les jugements, les exécutions, le retranchement des génitoires, les femmes qu'on fait avorter, les membres qu'on mutile, la lapidation, et hurle très maupiteusement ceux-là qu'on a fichés sur le pal. Entendez-vous ? Telles sont les fêtes qui vous rendent odieux, abominables pour les charmes que vous y trouvez. Toute votre apparence vous décèle. L'antre du lion qui aime le sang, voilà votre place naturelle, et non point ce lieu de la consultation oraculaire pour y répandre la souillure de votre présence. Allez-vous-en d'ici, sans nul pasteur pour vous paître. À de telles ouailles, aucun des dieux n'a de plaisir.
Seigneur Apollon, eh bien, écoute à ton tour. C'est toi qui de tout ceci est, je ne dis pas le complice, mais l'auteur même. Et celui qui a tout fait.
Comment ? Sur ce point, je te donne la parole.
C'est ton oracle qui a fait que d'autres, il devient parricide.
Mon oracle, tu l'as dit, afin qu'un père fût vengé. Après ?
Alors toi-même, tu te présentes pour couvrir ce sang encore frais.
Et je mande qu'ici même, il se présente pour recevoir purification.
Apollon est le dieu Arkéjet, le dieu responsable de la fondation qui conduit le groupe d'hommes qui va fonder une nouvelle cité à partir d'une ancienne ou avec l'idée d'une nouvelle. Parce que,
ou en défrichant.
C'est cela, on défriche effectivement. Et il est ce dieu alors, que j'ai articulé à cette épithète qui va lui rester jusqu'à la fin de l'Antiquité. Et il est le dieu des chemins, il est le dieu de la voirie. Il s'occupe des chemins. Alors je lui dis, mais pourquoi s'occupe-t-il des chemins ? Parce que les chemins, c'est précisément ce qui permet d'ouvrir un espace à travers une terre non cultivée. Il est ce dieu qui trace les chemins, qui découpe donc les emplacements. Et c'est le dieu de la fondation des premiers hôtels pour les premières cités. C'est le dieu qui accompagne le fondateur humain et qui lui montre le chemin.
C'est le dieu qui éloigne les fléaux, apportés par Dionysos d'ailleurs, des villes.
Oui, c'est cela, effectivement. Donc il a un rapport étroit avec tout ce qui sont les malheurs naturels, enfin toutes les catastrophes,
épidémies.
Les épidémies, bien sûr. Et c'est lui, alors c'est là qu'intervient le centre oraculaire, parce que donc le jeune Apollon, d'après le récit le plus important, qui est l'hymne mérique à Apollon du 6e siècle avant notre ère, est donc un dieu qui sait très bien ce qu'il veut. Lorsqu'il surgit, donc lorsqu'il naît donc à Délos, avec sa sœur Artémis, qu'on oubliait très vite d'ailleurs, parce qu'il
sœur
aura
jumelle.
Un hymne pour lui, sa sœur jumelle, il réclame donc sa lyre et son arc. Il commence à marcher. Il s'en va d'un bon pas et il défriche. Et en même temps, il délimite des espaces, il fonde des hôtels. Et pour finir, donc, il va vers le lieu qu'il veut atteindre, dont il a parlé dès le début. C'est donc là où il pourra fonder un oracle. Donc voilà, c'est un dieu qui a une vocation oraculaire, mais de fondateur en même temps, et de défricheur. Et on va le voir effectivement s'installer, donc... à Delphes, construire son sanctuaire lui-même, avec l'aide ensuite de deux architectes. Mais c'est de ce sanctuaire qu'il va exercer son vrai pouvoir, qui est le pouvoir de la parole oraculaire. Alors il fallait comprendre le rapport entre la parole oraculaire et le dieu des chemins. Et les chemins de la parole sont évidemment la voie royale pour la parole apollinienne. Et en particulier, c'est un oracle d'un type très, très intéressant, c'est un oracle vers lequel il faut aller. C'est-à-dire, il ne vient pas vers vous. Ce n'est pas une voix qui surgit. Hermès, par exemple, il y a un son, un bruit, on appelle ça l'oracle d'Hermès, et il faut l'interpréter, ou vous rencontrez quelqu'un, c'est Hermès, donc il vous l'amène, et bon, donc vous allez devoir comprendre que c'est ça qu'il faut faire, avec lui ou contre lui. Apollon, on est dans une situation d'aporie. Aporie, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a un fléau, parce qu'il y a des choses horribles qui se passent, on est très mal, tout se défait. Alors, à ce moment-là, il faut penser à aller questionner donc Apollon et aller vers Delphes. Et Delphes, pour les Grecs, justement, au centre de tous les chemins de la Grèce. Et là, Apollon attend, donc, et puis avec la pitié ou sans la pitié, mais souvent avec la pitié, donc il répond aux questions qu'on lui pose. Il faut parfois lui poser 3-4 questions. Et il faut surtout comprendre bien les réponses qu'il fait, puisque ses réponses sont bien sûr énigmatiques.
Obscures parfois.
Très obscures, c'est le dieu de l'obscur, aussi c'est le dieu de l'ambiguïté, c'est le dieu l'oxias, l'oblique. C'est un dieu oblique, tordu. Parce qu'effectivement, lorsqu'il parle, on croit comprendre, mais il ne faut pas se hâter de comprendre. Il faut réfléchir.
Mais il y a des questions précises qui sont posées à Delphes. Par exemple, vous dites dans votre livre, deux questions majeures plantées à Delphes. En quelle terre dois-je aller habiter? Et autre question, que faire en cas de malheur? Voilà les questions qu'on vient poser à Apollon.
Oui, je les ai ramenées à ces deux questions principales, effectivement. Parce qu'en quelle terre dois-je habiter, c'est donc très souvent des gens, effectivement, qui n'ont plus de terre, parce qu'ils ont commis un meurtre, et que par conséquent, ils doivent quitter leur terre. Alors, où habiter? En quel lieu? Et ça, c'est une question qui concerne directement Apollon, puisque c'est le dieu des fondations, des espaces nouveaux. Mais qu'est-ce que c'est qu'un espace nouveau et où trouver sa place? Et par conséquent, alors il y a des réponses qui sont très variées, mais parfois très difficiles à comprendre. Il faudra des générations, par exemple, pour les Héraclites, les descendants d'Héraclès, pour arriver à comprendre donc que c'est du côté de Sparte qu'il faut se diriger et qu'il faut partir, à la saison qui est définie par telle caractéristique, mais que ce n'est pas ce qu'ils ont compris immédiatement. Et qu'il faudra encore 2 générations pour que le chemin devienne clair, que la voie soit enfin ouverte.
Mais enfin, Marcel Détienne, ce qui est très, très beau aussi, très intéressant chez Apollon, c'est que c'est le dieu qui permet au fond de refaire sa vie. On a commis un meurtre justement, eh bien on peut aller ailleurs et recommencer autre chose. Et ça, c'est quand même une possibilité offerte à l'homme très exceptionnelle, finalement.
Oui, c'est cela. Parce qu'à la fois, donc, il est le dieu qui fait comprendre que quand on a des ancêtres ou des arrière-grands-parents pollués, il faut faire quelque chose, c'est-à-dire faire un sacrifice, s'en aller ou recommencer sa vie. Mais en même temps, il est le dieu qui ouvre un espace que l'on peut toujours, ou presque toujours, habiter à nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, tout, dans la mesure précisément où il passe son temps entre le sauvage et le cultivé, donc et c'est le dieu des chemins, c'est le dieu qui trace et qui ouvre les chemins et qui en même temps dessine les espaces des cités ou des habitations, il est donc extrêmement ouvert à toute forme nouvelle de l'habiter. De l'habiter dans l'espace toujours, bien entendu, politique pour les Grecs. On n'habite pas seul, on n'habite pas en dehors d'une cité, on n'habite pas sans avoir un rapport avec quelque chose qui est de l'ordre du politique.
Voilà, alors justement, tiens, saisissons le mot vol, le mot politique, Marcel Détienne.
Oui, pour les Grecs, c'est évidemment très important, puisque c'est dès qu'au fond, nous les connaissons, ils ont quelque chose qui est un lieu du politique, lui-même, pas pour eux, le politique sépharique.
Inventeur de la démocratie.
Oui, aussi, mais d'abord l'agora. C'est vrai
l'agora,
que
l'agora,
c'est-à-dire la place où l'on parle, le lieu d'assemblée. Mais l'agora, c'est un espace dessiné, justement. Et Apollon est un dieu qui dessine les enceintes, qui dessine les espaces d'assemblée. Il est en rapport avec les espaces d'assemblée. Non pas qu'il préside aux assemblées, il n'entre pas vraiment dans le politique et ses décisions, mais c'est lui qui aménage l'espace propre à l'échange des paroles. Alors, l'agora, c'est aussi le lieu où on ne parle que des choses importantes. Et pour les Grecs, c'est devenu très vite des choses communes, c'est-à-dire ce qui intéresse tous ceux qui ont le droit de parole. Et c'est un dieu donc, qui a rapport avec les commencements de la démocratie, c'est clair. Ça. Précisément dans la mesure où ils font des cités, il n'y a pas de cité sans agora. Donc, c'est une des grandes surprises donc, de l'archéologie donc, de la Sicile et de ces terres de colonisation, dites de colonisation, qui sont des terres effectivement où il y avait certainement des sicules et un certain nombre d'indigènes, que les Grecs bousculaient hardiment, puisqu'ils étaient couverts de bronze et que les autres avaient plutôt leur peau nue. Mais donc, quand ils s'installent dans cette terre, donc au 8e siècle, eh bien, ils commencent par fonder donc, une agora. Et on a la preuve de ça, donc un Mégara Ibléa, une première colonie qui est extrêmement bien fouillée. En arrivant, ils jettent sur le sol la forme de l'agora, qui sera construite architecturalement, monumentalement, beaucoup plus tard, c'est-à-dire un siècle après. Ils dessinent donc les chemins principaux, les voies de communication, et ils distribuent les lots de terre qui sont donc aussi attribués aux premiers colons, enfin donc dans ces formes de tirage au sort qui sont si importantes dans la première colonisation. Et donc une ville comme Mégara Ibléa, parce que Mégara est une ville intéressante, parce que c'est une ville d'Apollon. Enfin, Apollon est fondateur de Mégare, de la Mégare contemporaine à peu près. Et en même temps, donc, il y a cette colonie qui très tôt, très vite, comme ça, jette sur le sol l'image d'une cité nouvelle, qui rappelle sans doute un peu l'autre, enfin, qui était également complètement autonome. Donc des gens qui avaient ça dans la tête. Et que l'archéologie peut nous montrer que, oui, ils l'avaient bien dans la tête. Il n'y avait pas seulement, c'est pas seulement des théories qui viennent de plus tard, mais c'est quelque chose qui fait partie, bah oui, de la culture grecque du 8e siècle.
Et Orphée alors?
Orphée, oh, lui il plane. Oui,
peut-être que... Lui aussi a produit des sectes oui. réformatrices, oui. Pour ne pas dire révolutionnaires, en fait.
Oui, c'est vrai. Oui, les orphiques sont intéressants parce que maintenant, on les connaît beaucoup mieux puisqu'on a donc, grâce aux fouilles soviétiques sur les bords de la mer Noire, en particulier à Olbia,
oui, la bienheureuse... Oui, qui serait la patrie d'Orphée.
Qui pourrait être la patrie d'Orphée. Enfin, en tout cas, parce qu'Orphée, on ne sait pas très bien s'il est historique ou mythique, on ne voit pas. Enfin, il est le fils d'Apollon, le fils de Iagros, on le situe très mal.
Est-ce que c'est une figure... Un de ses lieux d'origine, en tout cas, serait la mer Noire, les bords de la mer Noire.
Hein. Est-ce que c'est lui qui... Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un? Probablement, il y a quelqu'un. Il y a un théologien qui est devenu un personnage un peu légendaire, mythique, et donc qui s'appelle Orphée, et donc qui met au centre de son activité, oui, le chant, la voix. D'abord la parole. Et puis cette parole est une parole créatrice qui réorganise le monde. Nous avons maintenant nous connaissons mieux ces cosmogonies orphiques, cosmogonies théogonies, réorganise le monde des dieux aussi. Et donc produit alors un ensemble de livres, de rouleaux, une bibliothèque, une grande bibliothèque orphique qui va beaucoup inquiéter donc Platon, qui ne cessera à la fois de la citer et de vitupérer contre ces gens qui sont dans les livres, qui sont tous comme ça à se passer des rouleaux. Et nous connaissons mieux aussi maintenant, depuis donc la découverte d'un papyrus de Dervini du 4e siècle avant notre ère, donc qui devait accompagner un mort comme Livre des Morts. Nous connaissons mieux cette littérature, donc nous savons que ce sont donc des activités étendues à tout le monde grec, et par des gens vêtus de blanc qui refusent donc de manger de la viande, refusent de sacrifier, c'est cela, oui. Et qui rejette en même temps donc le système de la cité, l'ordre politique, l'espace de l'agora, et qui se retrouve entre eux avec donc ces manières très très particulières, le silence, le culte des livres, cette réflexion sur le langage et sur aussi l'origine et les fins de l'espèce humaine, puisqu'ils ont une eschatologie et leur cosmogonie est également très construite. Alors donc, ces gens vont un petit peu s'aimer, ne vont laisser derrière eux que très peu de choses, c'est-à-dire des livres, oui c'est ça, une certaine image, et puis le mythe d'Orphée surtout,
oui.
Le grand mythe d'Orphée, qui va devenir aussi l'objet d'un travail littéraire, en Grèce même, donc indépendamment des orphiques aussi, parce que c'était quand même la grande figure du poète, cette voix qui n'est pas inspirée, c'est-à-dire qui naît de lui-même, donc... Il est le fils d'Apollon, il ne s'inspire pas des muses, donc il est la voix. Et cette voix énonce, il est le souffle primordial, donc c'est quelque chose de très fascinant.
Pas l'air de se rendre vraiment compte que, disons, les trois quarts du monde, les trois quarts du monde sont polythéistes. Enfin, bon, la Chine, l'Inde, le Japon, l'Afrique, le polythéisme est très présent aujourd'hui.
Bien sûr, c'est ça.
Et ça, vraiment, c'est quand même.
Bien sûr.
C'est une question tout à fait contemporaine et brûlante.
C'est ça, l'Afrique l'est entièrement. Donc, évidemment, oui. Que le Japon fonctionne selon un système polythéiste aussi extrêmement important. Les Japonais en le savent bien. Mais enfin, en même temps, c'est vrai que mettre ces questions-là ensemble et regarder de près la manière dont se transforme, puisqu'on peut le faire, des systèmes polythéistes sur un certain nombre de points, c'est une occasion unique d'agrandir le laboratoire.
À partir de 1975, vous enseignez à la 5e section de l'école pratique des hautes études, qui est donc la section des sciences religieuses. Mais alors, pourquoi partez-vous enseigner aux États-Unis ? Est-ce que vous pensez, Marcel Détienne, que l'exercice de vos recherches y est plus favorable ?
Il y a une raison comme cela, événementielle, très, très, très simple, immédiate. C'est qu'on m'a proposé, on nous a proposé, à moi et à Julia Sissa, donc de fonder, refonder un département d'études classiques. Études classiques, ça ne m'intéresse pas tellement. Mais on pouvait le faire comme on voulait. Par conséquent, on pouvait introduire autant d'anthropologie, d'histoire subversive qu'on le souhaitait. Et donc, on avait carte blanche. Et donc ça, évidemment, c'était quand même quelque chose de très excitant. Voilà. Donc c'est ça qui nous a décidé. Et puis donc, c'est vrai que les États-Unis c'est un lieu où on peut faire beaucoup de choses. Enfin, et puis moi, ça m'intéressait effectivement peut-être aussi de quitter un peu un quartier latin que j'arpentais depuis 40 ans. Donc,
Oui, vous dites on peut faire comme on voulait. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire ? Comment est-ce que vous voyez les choses ? Comment est-ce que vous envisagez le travail à John Hopkins le nom du lieu ?
Oui, c'est John Hopkins qui est à Baltimore. C'est une université donc, qui est intéressante parce qu'elle est un espace ouvert au départ, puisqu'il était créé un peu à l'image de l'école de hautes études. Vous direz pourquoi aller chercher l'école de hautes études de l'autre côté de l'Atlantique ? Parce que c'en est une autre, et nouvelle surtout, et puis un espace neuf. Donc j'ai pu faire beaucoup de choses ici, je ne vais pas prétendre qu'effectivement je n'ai pas fait de comparatisme comme je l'entendais entre le CNRS, le ministère de la Recherche et l'école des hautes études, certes. Mais bon, à un certain âge, on a envie de changer, de commencer d'autre chose. Et donc, c'est vrai que les États-Unis ont cette dimension, c'est qu'ils aiment bien les gens qui ont envie de commencer des choses.
Alors, oui, concrètement, comment vous envisagez le travail là-bas ?
Oui, concrètement, ben, un peu pas la meilleure d'ici, c'est-à-dire effectivement par affinité personnelle, parce que travailler à plusieurs, ce qui me semble essentiel dans le comparatisme, ça signifie donc avoir d'excellentes relations, de bonnes relations, des affinités nourries avec un certain nombre de gens qui sont anthropologues, historiens, travaillant dans des secteurs très différents de vous, mais également curieux de ce qui peut se passer ailleurs que chez eux. Et donc ça, j'en ai trouvé aux États-Unis, et j'espère encore en trouver davantage. Et puis, aux États-Unis, c'est pas le quartier latin, Hopkins, c'est-à-dire que c'est une université parmi une trentaine d'autres qui sont aussi intéressantes. Et donc, c'est la possibilité de bouger aussi, donc, et de tisser une toile, non pas à l'échelle de l'Amérique, ce n'est pas notre ambition, mais en tout cas, entre des gens qui peuvent se trouver à des distances très grandes les unes des autres, sans que ce soit un obstacle là-bas.
Donc, grande ouverture au monde.
Oui, mais par exemple, nous avons un projet que j'ai commencé ici sur les pratiques des assemblées et les modèles du politique. Alors, donc, c'est un petit peu pour aller au-delà des modèles de la démocratie grecque qui converse, qui n'en finit pas de converser avec notre démocratie révolutionnaire ou post-révolutionnaire ou bien la démocratie américaine telle qu'elle est. Et donc, c'est pour ouvrir le champ de ce qu'on peut appeler la démocratie. Alors là, les États-Unis sont très intéressants parce qu'on peut donc compter sur des historiens de la Révolution qu'on peut également trouver ici, si j'en ai trouvé. On peut également donc explorer, et je suis en train de le faire, le monde des anthropologues parce qu'il y a un grand nombre de sociétés qui ont inventé ce que nous pouvons appeler la démocratie. Mais nous ne le connaissons pas. On n'y avait pas fait attention. Et grâce à un africaniste avec lequel je travaille maintenant, qui est Marc Abeles, qui est devenu spécialiste des assemblées européennes, d'ailleurs, maintenant, nous avons trouvé un lieu, qu'il a appelé le lieu du politique dans son livre, mais en Éthiopie du Sud, où des gens, des Éthiopiens du Sud, donc dans les montagnes, les Okolos, depuis le XIXe siècle, pratiquent un système d'assemblée. Assemblée de quartier, de sous-quartier, assemblée fédérale, et avec une conception très forte des affaires communes, de ce qui intéresse les Okolos en tant que tels, un rituel d'assemblée.
Quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle la démocratie directe.
C'est une démocratie, en effet, entièrement directe, oui. Comme celle que les Grecs ou les Suisses, certains Suisses, en tout cas dans le Valais, ont continué à pratiquer. Et donc, il me faut explorer un peu la carte anthropologique pour voir s'il n'y a pas ailleurs encore des sociétés aussi intéressantes que celle-là. Et par exemple, ça ne relève plus de l'anthropologie parce qu'ils sont maintenant un petit peu en marge, mais le monde des Cosaques, qui nous intéresse beaucoup, qui intéresse beaucoup aussi les gens des assemblées parlementaires de 89, est très intéressant parce qu'entre le 14e et le 17e siècle, ils inventent une démocratie directe qui, en même temps avec la communauté des biens, donc là, quelque chose de très militaire, bien sûr, ce sont des hommes libres. Et ils réclament maintenant, bien entendu, en quelque sorte, c'est le privilège d'avoir été les premiers démocrates dans le monde russe. Mais ils ont bien été exterminés par le tsar et le pouvoir central. Mais c'est un terrain d'observation étonnant, puisque donc ça a pu surgir, puis bon, s'arrêter à un moment donné, c'était cassé, ça a disparu. Donc la démocratie, je ne dirais pas que c'est dans les gènes.
Les démocraties, en fait.
Voilà, c'est ça. Oui, c'est-à-dire,
se met au pluriel. Hein.
Voilà, c'est des gens qui s'assemblent pour parler de leurs affaires communes et qui définissent un espace propre à ces affaires communes. Et là, il y a cette idée de bien commun, de respect, publica, de république. Et tout, ça peut donner des tas de choses. Ça peut donner des choses très étonnantes. Ça peut s'arrêter, ça peut mourir, ça peut disparaître. Puis ça peut parfois aller plus loin. Mais donc, c'est un petit peu sur cette matrice-là que je travaille. Et je crois que les États-Unis sont très intéressants. Parce qu'assemblée de Quakers, toutes ces formes d'organisation, de rassemblement, avec toujours un travail sur la parole. Et quelque chose, effectivement, qui met au centre de la parole ce qui est le bien de tous. Donc cette idée de un, de tous, comment se construit, comment prend-elle forme, à travers quelle pratique, quelles sont les procédures, tout ce qui est... Là, le concret est très important. Enfin, la manière de prendre la parole, la manière de s'avancer pour prendre la parole, le lieu où on la prend, la façon... Toute la rhétorique parlementaire entre la France et l'Angleterre tient à la façon de prendre la parole. Donc, dans les Commons, on la prend depuis sa place en s'adressant au speaker. Et en France, pas dès le début, mais enfin à la fin de 89, on a déjà mis une tribune et on va prendre la parole à un emplacement et on s'adresse à l'ensemble de ceux qui sont là. Donc c'est aussi un choix extrêmement important pour la suite, enfin pour la forme que la rhétorique parlementaire va prendre.
Il est aussi évidemment, Marcel Desienne, très important de savoir quel sens au pluriel on met sous les mots. Ça, c'est tout à fait fondamental. Aujourd'hui, c'est un enjeu brûlant aussi, alors, pour le coup.
Oui, c'est vrai que ce champ que nous appelons celui de la démocratie grecque, par exemple, démocratie est un mot tardif, c'est un mot du 5e siècle. Avant, on ne parle pas de démocratie, on parle d'isonomie, c'est-à-dire égalité de droit devant la loi, nomos. Isos, donc la notion d'égalité très très forte. Il y a la notion de similarité, de ressemblance d'une part, homoios, nous sommes les semblables, disent les Spartiates, et puis la notion d'égalité. Et égal est très proche de semblable à un certain moment, et puis vers le 6e siècle, ça devient très arithmétique. C'est une égalité qu'on calcule. Et donc, cette démocratie viendra. Comme probablement, je crois que c'est Nicole Leroux qui a fait remarquer ça, avec peut-être quelques précédents, enfin que c'est un mot qui n'est pas favorable à ce pouvoir du plus grand nombre. Et c'est la manière pour les aristocrates et les oligarques de désigner la démocratie, c'est de dire c'est le pouvoir du plus grand nombre, c'est la foule, pléthos, plétus, enfin cette masse que Platon montrera du doigt à son tour. Et parce que Kratos, c'est la précédence, mais c'est une précédence violente et brutale. Et donc c'est la précédence du démos. Le démos, c'est le peuple. Le peuple assemblé. Mais c'est aussi le peuple, la populace. C'est-à-dire, ils sont trop nombreux.
Une connotation très péjorative, effectivement.
Assez péjorative, effectivement, bien sûr. Oui. Donc, et en même temps, c'était aussi, je voudrais remarquer Nicole Leroux, qu'il n'y avait pas de théoricien de la démocratie enfin, en Grèce. Il y a des pratiques, il y a des enjeux, mais il y a peu de théories. Il y aura des théories au 4e siècle, enfin, mais de l'intérieur, on peut dire du 5e, 4e siècle, au moment où ça... Il y a tellement de choses qui se passent. Donc, pour la démocratie athénienne, puisque c'est la mieux connue, côté spartiate, on ne parle pas, on n'écrit pas, on raconte ce qui se passe de l'extérieur. Donc, c'est un petit peu, encore une fois, cette idée que c'est très appauvri, cette voie grecque de démocratie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la voie athénienne seulement. Alors qu'en fait, l'intérêt de la Grèce, comme laboratoire pour les pratiques d'assemblée et les modèles du politique, c'est d'offrir quelque chose comme 500, 600 cités. Et les fouilles que j'évoquais de Mégara et Bléard ont duré 40 ans. Avant d'arriver et trouver. Bon. Mais on peut penser qu'avec les moyens que l'on a maintenant, et puis toute l'exploration de la Turquie, c'est-à-dire de l'ancienne Asie mineure, toutes ces villes qui sont à découvrir, dont les paysages sont magnifiques, hein, les villes ne sont pas encore connues, eh bien donc on va pouvoir effectivement comprendre et analyser beaucoup mieux un certain nombre de ces expériences étonnantes du politique dans ces premières cités.
C'était Le bon plaisir de Marcel Desienne. Prise de son Muriel Suner, Rafik Evorkian. Mixage Pierre Mine, Mireille François. Coordination Laurent Genepin. Vous avez entendu un extrait de L'Orestie d'Achille. C'était une émission de Christine Goémé, réalisée par Nicole Villaume.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 18 juillet 1998. Demain, à la même heure, Le bon plaisir de François Caradec par Simone Houdouek. Et dans un instant, Les années jungles, Michel Lebris, Patrice Blanc-Francard.